Vous écoutez
RMC. RMC intégrale Coupe du Monde.
Christophe Cessieu.
La Coupe du Monde est terminée. L'intégrale Coupe du Monde se poursuit ce soir, en tous les cas, jusqu'à 20h pour accompagner les Bleus qui sont de retour au pays. Ils ne sont pas encore sur la France, mais ils se rapprochent. On a nos applications, nos trackers, et on voit que l'avion a survolé l'Italie. Il va s'approcher de la Suisse et donc se poser à Paris aux alentours de 19h45-19h50. Ils prendront ensuite le car, direction la place de la Concorde au cœur de Paris, et donc une petite visite à la terrasse de l'hôtel Crillon, là où ils s'étaient déjà entretenus et en tous les cas avaient adressé leur coucou au public après la finale perdue en 2006. On espère ne pas voir les mêmes larmes que celles de Trezeguet en 2006, rappelez-vous, ça avait déchiré le cœur. On est toujours avec Jérémy Ménez, avec Mathieu Valbuena qui sont avec nous. On va parler de l'Argentine dans quelques instants, messieurs. Auparavant, on va retourner justement du côté de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport, sur le tarmac. Il est là, il attend depuis des heures, il se gèle, c'est notre ami Anthony Reich. Vois-tu un avion se poser, Anthony, ou toujours pas ?
Non, écoute, je ne vois pas d'avion se poser, Christophe. J'en vois beaucoup qui sont parqués là sur ce tarmac à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On est entré, on a pris position sur le tarmac avec une cinquantaine, soixantaine d'autres journalistes. On est vraiment au bout du couloir, à 200 mètres à peu près de l'endroit où l'avion des vice-champions du monde s'arrêtera et se garera. Et on voit devant nous, en face de nous, à une centaine de mètres, les différents bus qui les emmèneront direction place de la Concorde. Donc comme tu l'as dit, dans un peu moins d'une heure maintenant, l'avion de l'équipe de France qui devrait se poser ici à Roissy-Charles-de-Gaulle, avec un dispositif exceptionnel en termes de sécurité, puisque pas moins de 70 motards sont présents pour escorter les Bleus, leurs proches, etc. En direction de la capitale.
Bah, on aura la moto RMC tout à l'heure, hein. On a envoyé
Morgane Maury
exactement, qui est un judoka, donc qui n'a pas peur des gardes du corps et qui va pouvoir s'approcher du bus de l'équipe de France sans problème. Il sera avec nous tout à l'heure. Pour l'instant, il est au parking, bien au chaud, avant de nous faire vivre l'arrivée, le retour du bus des héros malheureux de l'équipe de France, qui vont donc gagner tout à l'heure le centre de Paris. Mao Granier, Becker Granier, qui est, elle, dans l'aérogare, qui essaye de savoir par quelle porte les Bleus vont débarquer. S'ils débarquent par là, hein, Mao, hein, c'est toujours très incertain de ce côté-là.
Exactement, c'est très incertain, mais ce qui est certain, c'est que les supporters, eux, arrivent petit à petit. Il y en a presque une vingtaine maintenant. C'était timide au début. Là, il y en a de plus en plus. Je suis justement avec Maxence et Alix. Ils ont 17 ans. Eux, ils ont quand même fait 2 heures de transport pour venir de Rambouillet. Franchement, si ça, c'est pas de la motivation. Et malheureusement, là, on a eu un petit indice. La sécurité de l'aéroport semble dire qu'ils ne passeront pas par ici. Aïe. Mais Alix, ça te décourage pas ?
Non, ça me décourage pas du tout.
Tu vas tout faire pour les voir.
Oui, on essaye en tout cas.
Et Maxence, tu voulais vraiment venir aujourd'hui. C'était important. Même 2 heures de route, c'est quand même pas rien. Enfin, de transport en commun.
Ouais, c'est important, et puis on les a suivis pendant toute la Coupe du Monde, on est fiers d'eux et on va attendre et on verra.
Et s'ils viennent pas, alors t'as un plan B de toute façon?
Ouais, on va essayer d'aller à la place de la Concorde, même si là il y aura tout le monde en fait, donc ça va être très compliqué. Et surtout qu'il y a des arrêts qui sont fermés, je crois. Donc
voilà, Maxence et Alix, ils espéraient avoir un peu un accueil privilégié en faisant le déplacement jusqu'à l'aéroport. C'est pas sûr que ce soit gagné, mais en tout cas c'est l'espoir de plein de... Beaucoup de jeunes, hein, beaucoup d'enfants surtout, ouais, autour de moi.
T'as amené avec ton maillot, Mao, pour le faire signer, toi?
Non.
Ou même pas? Non, tu l'as pas.
Voilà, je me dis que si c'est Enzo qui doit se le faire. Et voilà, moi j'ai gardé le mien bien au chaud à la maison.
Merci Mao, à tout à l'heure. Elle joue au chat et la souris avec les services de sécurité et pour savoir où l'équipe de France va débarquer. Mais a priori, malheureusement, pour les supporters qui sont là-bas, je ne pense pas qu'ils vont passer par les entrées et les sorties habituelles réservées aux voyageurs qui arrivent donc à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Direction donc pour les voir, direction place de la Concorde, devant l'hôtel Crillon, pas loin de là où Louis XVI avait été guillotiné. Hein, Clément Brossard, tu peux nous faire un petit cours de
belle référence.
Salut Clément.
Belle référence. Est-ce que ça a un lien avec cette finale perdue?
Je te sens un peu taquin.
C'est pour ça, je te sens un peu taquin. En effet, devant l'hôtel Grillon où ils sont attendus, les joueurs de l'équipe de France, aux alentours de 21h maintenant, avec quelques supporters, l'ambiance commence à monter petit à petit. Évidemment, il y a la frustration de la défaite, mais Freed from Desire de Gala retentit encore un petit peu plus. La Marseillaise aussi a été chantée. Je suis avec quelques supporters. Jason, c'était important d'être là malgré la défaite.
Oui, c'est c'était important d'être là pour les supporter et aussi pour les remercier de tout le parcours qu'ils ont fait durant cette Coupe du Monde. Ils nous ont fait vivre beaucoup d'émotions et c'était important pour moi d'être aujourd'hui présent à la place de la Concorde pour les remercier.
Polo, on est à quelques mètres là de l'hôtel Crillon, va falloir crier fort pour qu'ils vous entendent.
Ouais, carrément, moi ça me rappelle un peu les souvenirs 2006, un petit peu difficile. On est là quand même parce que c'est important, on a fait un parcours magnifique, on a été somptueux hier. On s'incline malheureusement, mais c'est le jeu, c'est le football. Mais ça fait plaisir de pouvoir les voir en vrai, de leur dire qu'on est là aussi et que nous aussi on souffre, mais on est content d'eux, on est très fiers.
Et puis Christophe, il y a des supporters qui ont une histoire particulière avec quelques joueurs vice-champions du monde. Je suis avec un formateur d'Evreux, du club d'Evreux, qui a connu un tout petit.
Il y a trois
Ousmane
joueurs
Dembélé,
qui sont
exactement.
Formés à Evreux, je crois.
Un certain Steve Mandanda également. C'est particulier de les voir grandir et de les voir chuter si proche d'un titre suprême. Quand on a été formateur de ces joueurs-là, on est encore un peu plus déçu.
Oui, déçu, ça c'est certain. Maintenant, c'est quand même une grande force de comment cette génération, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont fait quand même preuve de beaucoup de ils ont été merveilleux parce que bon, Steve Mandanda, ça fait quand même énormément d'années qu'il est sur le plus haut niveau. Ousmane Dembélé a percé au plus haut niveau avec beaucoup d'opiniâtreté, de travail, beaucoup de travail. Et donc c'est vraiment une énorme fierté.
Jeff, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire là quand ils vont arriver, ces Bleus, malgré la défaite, ils seront dans un état où ils n'avaient peut-être pas tellement envie de venir, mais il va falloir leur apporter toute la force.
Oui, tout à fait. Ben, bravo, un énorme bravo malgré la défaite. Mais je pense qu'il faut se remémorer aussi la victoire d'il y a 4 ans. Qui est une magnifique victoire en Russie. Donc tout ça, c'est quand même un symbole aussi de victoire. C'est un symbole de, comme je vous disais, d'opiniâtreté et de travail. Beaucoup, beaucoup de travail.
Merci beaucoup aux supporters français qui chantent, qui commencent à chanter. Vous l'entendez derrière moi, les artères vers la place de la Concorde sont bouchées. Et le monde commence à arriver à fluer de plus en plus.
Bon, rassure-moi, Alexandre Benalla va pas conduire le bus de l'équipe de France ce soir.
A priori. Il avait mis son petit message sur les réseaux sociaux en préchauffant le bus.
Merci Clément, à tout à l'heure. On sent que l'ambiance est en train de monter quand même, hein, sur la place de la Concorde pour accueillir les héros qui seront là, pas tout de suite, hein, puisque on vous le rappelle, ils se poseront dans 40 minutes environ à l'aéroport Charles de Gaulle avant de gagner donc le centre de la capitale. La France qui accueille ses héros. Alors imaginez ce que ça doit être en Argentine après cette finale complètement dingue. On va partir à Buenos Aires dans un instant.
Avec Messi, Messi face à Lloris, Messi, contre-pied, forfait, 1-0 pour l'Argentine. Non, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. Messi qui la récupère du pied droit, mais oui, elle est rentrée. C'est Messi qui va doubler. Hugo sort là, avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini. L'Argentine est champion du monde. À la séance de tir au but, l'Argentine s'impose.
L'Argentine championne du monde, la folie qui a gagné Buenos Aires et tout le pays. Évidemment, on va en parler dans un instant avec notre correspondant sur place. On est toujours avec Jérémy Ménez et avec Mathieu Valbuena et avec notre Georges Quirino national qui est là, qui lui était partagé évidemment, famille franco-argentine évidemment aujourd'hui. Donc il est sans doute l'un des Français les moins déçus finalement de la planète. Salut mon Georges.
Tous.
Bon, comment tu as vécu ça, Georges? Raconte-nous un peu, raconte-nous ta soirée de folie. Enfin, c'était pas vraiment la soirée en Argentine avec le décalage horaire, ça s'est passé dans l'après-midi. Raconte-nous la décharge de bonheur qui a submergé tout le pays au moment où la victoire s'est construite, s'est faite.
Non, incroyable. Ouais, le match était à midi ici à Buenos Aires, c'est l'été, je vois. Plus 25 degrés, grand soleil, ciel bleu. Et oui, il y avait des milliers de personnes. Pour ici, à Buenos Aires, il y avait 5 écrans géants. Le match a été vécu avec beaucoup de tension. Alors, ils étaient les Argentins à 2-0. Ils pensaient qu'ils avaient déjà la troisième étoile tranquillement. Et alors, après, quand il y a eu l'égalisation française, ça a été vécu comme un coup de massue énorme. Tout le monde trouvait ça d'une cruauté sans nom, encore pour Messi, justement, en se disant, c'est pas possible, ce mec ne va pas y arriver. Et voilà, donc même la séance de prolongation a été pareille, quand Mbappé a égalisé à nouveau. Et puis après, pour la séance de tir au but, ils étaient quand même assez confiants, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un gardien de but assez énorme, sur cet exercice-là. Donc, bon, et Christophe, bah, la folie, l'hystérie totale, des pleurs de joie partout, de tout âge, hein, des personnes âgées qui étaient dans la fan zone, moi, où j'étais, qui avaient, je sais pas, 70, 80 ans et qui étaient, parce qu'ils pensaient jamais voir avant de mourir, l'Argentine être à nouveau champion du monde. Il l'avait vu en 78 et en 86 avec Maradona, et les gamins, les jeunes adultes qui n'avaient jamais vu l'Argentine sacrée, qui écoutaient leurs parents et les grands-parents parler de Maradona en permanence, un peu lourdeau d'ailleurs. Ils ont leur Diego maintenant, c'est Lionel Messi qui leur a donné ce titre, ils en parleront à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et puis ensuite c'était grande transhumance, bleu ciel et blanche dans tout Buenos Aires. Les drapeaux, les maillots, jusqu'à l'avenue du 9 juillet, ici, c'est l'équivalent des Champs-Élysées avec l'obélisque qui pointe, des kilomètres d'Argentins, une foule énorme, il y avait plus d'un million de personnes hier soir, Christophe, ouais. Ici, ça, 36 ans qu'ils attendaient ça, donc la fête a duré, dormi,
Alors, Georges, on va essayer d'arranger un petit peu la ligne, parce que ça coupe, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'appeler l'Argentine en ce moment. Georges Quirino, qui est donc notre correspondant à Buenos Aires, hein, qui a fait quelques petits tours de France avec moi quand même. Hein, là, c'était quand même autrement plus important que l'Argentine championne du monde. Mathieu, Jérémy, un petit mot sur la victoire argentine. Évidemment qu'on est tous très déçus, mais d'un autre côté, voilà, voir ce pays qui est dingue de foot enfin remporter cette Coupe du Monde, même s'ils en avaient déjà deux, mais enfin voir Messi champion du monde. Mathieu, tu le disais tout à l'heure, ça, c'est pas que ça te console, mais quelque part quand même, voilà, c'est un aboutissement pour ce joueur qui a marqué toute une génération et notamment ta génération.
Bah, bien sûr, Messi c'est le football. Messi avait tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait, mais on se rend pas compte que même pour lui, vous vous rendez compte que c'était le match de sa vie. Mmh. C'était le match de sa vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même en Argentine, parce qu'il y en a encore, enfin, il y en a, ils étaient beaucoup, même, ils sont plus encore maintenant, mais ils étaient beaucoup sceptiques, on va dire, sur Messi, du fait que est-ce qu'il était l'égal de Maradona ou est-ce qu'il avait dépassé Maradona. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu gagnes cette Coupe du Monde avec tout ce qu'il a fait, et ben pour lui, c'est une récompense incroyable, c'est ce qui lui manquait dans son grand palmarès. Mais c'est vrai que pour moi, l'Argentine a fait un match parfait jusqu'à la 70e, 80e. Et c'est vrai que souvent, les 2-0, c'est des scores un peu bâtards, parce que on sait très bien que 2-0, ça va très vite, tu prends un but, et tu prends un but, et encore plus contre une équipe de France qui est souvent clinique. Et c'est vrai que voilà, ça a été dur. Il a dû s'arracher jusqu'au péno pour tirer. Lui, il a tiré le premier, et quelque part, ça a mis beaucoup de confiance. Ils avaient un gardien incroyable sur les pénaltys. Et vraiment très fier pour lui, parce que franchement, de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, il a montré beaucoup d'humilité, beaucoup de voilà. Souvent, nous en France, et même un petit peu moi aussi, un peu, je l'ai un peu critiqué quand il est arrivé au Paris Saint-Germain sa première année, parce qu'on attendait tous de Messi qui dribble toutes les défenses de Ligue 1, et ça a été dur, mais c'est vrai, mais il faut le dire. Et franchement, je me ravis, parce que pourtant moi j'ai toujours été un fan de Messi, et c'est vrai que sa deuxième saison, sa première partie de deuxième saison est magnifique avec le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui on le voit, même s'il n'a pas été à 100% à la finale, où on a vu qu'il avait un ischio quand même qui le tiraillait, au final il en a planté deux, et puis il a montré la voie aux Argentins, à tout ce peuple qui n'attendait que ça.
Alors on va continuer d'évoquer ce qui se passe à Buenos Aires et savoir si Jérémy Ménez lui aussi est ravi pour Messi, ou s'il est ravi aussi pour les autres Argentins, les autres joueurs qui nous ont pas tous bien plu, hein, évidemment, à leur comportement d'après-match. Georges Quirino est avec nous, Jérémy Ménez, Mathieu Valbuena, nos envoyés spéciaux qui sont en place, qui attendent que l'avion se pose. Il va bientôt se poser, dans moins d'une demi-heure maintenant, l'arrivée à Paris. On continue d'évoquer l'Argentine et championne du monde, et donc la France battue hier à l'issue de la séance des tirs au but. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est l'intégrale du monde sur RMC. À tout de suite.
RMC intégrale Coupe du monde.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, l'intégrale Coupe du monde, profitez-en. Ensuite on solde, hein, évidemment, la Coupe du monde est terminée, l'intégrale se poursuit. Il y aura l'after, rassurez-vous, à partir de 20h autour de Benoît Boutron, et jusqu'à minuit pour évoquer cette Coupe du monde, évoquer également le retour de l'équipe de France. Il y aura donc le passage dans Paris jusqu'à la place de la Concorde du bus de l'équipe de France, l'équipe de France qui va se poser aux alentours de 19h45 19h50, toujours en compagnie de Mathieu Valbuena, de Jérémy Ménès et de Georges Quirino. Marino, notre correspondant à Buenos Aires. Buenos Aires qui s'apprête là aussi à faire la fête. Ça va se passer comment ça va se passer d'ailleurs, Jean? Je crois qu'il y a un petit peu de retard. Hein. Il n'y a pas seulement l'équipe de France qui a du retard. L'équipe d'Argentine qui est attendue la nuit prochaine, je crois, c'est ça, à Buenos Aires?
Ouais. Ouais, c'est pas qu'il y a du retard, c'est que c'est un peu plus loin aussi.
C'est l'Argentine, sûr.
Ils ont dû faire une escale technique à Rome pour remettre un peu de carburant et ensuite Buenos Aires, je crois qu'il y a minimum 19 heures d'avion hein, quand même.
Ah ouais, l'autre bout de la planète.
Ouais, l'autre bout de la planète, effectivement. Voilà.
On a petit problème technique hein, avec Georges, on n'arrive pas bien à joindre. On va essayer de rectifier ça. Jérémy, je voulais te poser la question tout à l'heure avant la pause. Alors évidemment qu'on est ravi pour Messi. Messi c'est un dieu du foot depuis des années et tous les fans de ballon rond sont ravis qu'il touche enfin une Coupe du Monde. Mais est-ce que on est ravi également pour ses coéquipiers? Un peu moins. Moi j'ai l'impression. Moi j'adore l'Argentine. J'adore cette ambiance. J'adore ce pays. Mais là depuis quelques jours, franchement, certains Argentins m'ont un peu déçu. Je sais pas quel est ton avis là-dessus.
Bon, après c'est sûr que la star de l'équipe c'est Messi, donc avec toute son histoire on est tous contents, surtout pour Messi. Mais après il faut quand même il joue pas tout seul, donc je pense qu'il faut rendre hommage aussi quand même à cette équipe et à ce coach aussi, surtout parce qu'il est arrivé, ils ont gagné la Copa América, là ils viennent de gagner la Coupe du Monde. C'est un groupe jeune aussi, il y a pas mal de jeunes, donc ça promet aussi un bel avenir pour cette équipe d'Argentine. Et puis voilà, et puis je pense que Messi hier a joué le match, comme l'a dit Mathieu, le plus important de sa vie. La comparaison avec Maradona, c'est toujours joué par rapport à une Coupe du Monde. Et hier, voilà, il a réussi à gagner cette Coupe du Monde, donc il pourra dormir tranquille maintenant.
Ouais,
tu vois,
oui, dormir tranquille avec la Coupe du Monde, il va dormir avec elle. J'espère qu'il viendra la présenter au Parc des Princes, sait-on jamais, au Paris Saint-Germain. Ça va être sympa d'ailleurs de voir Mbappé et Messi porter ensemble le maillot du PSG dans quelques semaines, qui ont été les deux héros de la fête. Mathieu, ton avis sur le comportement de certains Argentins, les célébrations d'après match? Bon, évidemment, on est dans la folie, dans l'extase d'après compétition, mais bon, ça n'a pas été toujours très très fair-play quand même cette histoire.
Ben, souvent dans la folie, dans l'excitation, on est tellement heureux et des fois on en perd un peu son sang-froid. Et ouais, c'est vrai que sur que ça soit le gardien ou que ça soit un ou deux joueurs, ils ont un peu d'humilité. J'ai trouvé ça un petit peu petit, quoi.
Ouais.
Mais bon, après voilà, je pense que faut pas retenir que ça. Je pense qu'il faut retenir un petit peu que ça a été une finale grandiose et dont on a rêvé. Mais bon, c'est vrai que certains comportements sont des fois un petit peu petits, mais bon, c'est comme ça.
Après, ça fait partie un peu du caractère argentin, sud-américain, toujours à provoquer. Et c'est ce qui te font aussi des fois déjouer. Hein. Ils te mettent un peu d'énervement. Toi, tu tombes dans leur provoque. À un moment donné, tu sors un peu de ton match et ça fait partie aussi de leur petit jeu à eux aussi hein, depuis pas mal d'années.
Ouais, moi je me souviens.
Ils savaient très bien qu'en plus que l'équipe de France hein, intrinsèquement ils étaient meilleurs, et je pense que eux ils sont très très bien rentrés dans le match contrairement à nous. C'est pour ça qu'on peut en perdre 2-0 mais bon, c'est aussi ce caractère qu'ont les Argentins, c'est-à-dire un petit peu faire déjouer leur adversaire et c'est un petit peu voilà, ils ont toujours été un peu comme ça, c'est les Argentins.
Ah, ils savent rentrer dans les têtes de leurs adversaires. Moi, je me souviens d'un match de Coupe du Monde de rugby en France en 2007. C'était le match d'ouverture entre la France et l'Argentine. Eh bien, ils avaient à la surprise générale battu les Bleus. Ça avait chambré tout au long du match. Et est-ce que toi, Georges, en tant que Français résident en Argentine, tu t'es fait chambrer depuis hier soir par les Argentins, ou alors ils ont un peu de compassion pour toi?
Non, gentiment. J'espère que vous m'écoutez bien cette fois-ci, mais. Effectivement, moi j'ai pas été trop surpris par passer hier soir. Je pense que Jérémy, tu l'as bien. Effectivement, c'est un peu dans leur culture là, le chant d'Emiliano Martinez dans le vestiaire après le match qui dit un minuto de silencio para Kylian que está, et une minute de silence pour Mbappé qui est mort. C'est pas un truc personnel. Ouais. C'est un chant qui est chanté par dans tous les stades ici. On s'en prend au rival. Voilà, vous savez, River Plate et Boca Juniors, c'est les deux grands rivaux. Quand River Plate a battu en finale de la Copa Libertadores, Stade Monumental de River, maintenant une minute de silence pour Boca qui est mort depuis cette finale de la Libertadores.
Ils l'ont adapté pour l'équipe de France.
C'est un chant Non, voilà, exactement, exactement. Alors après, effectivement, nous, de notre vision française, où on n'est pas trop dans ce genre de provoque, même si je rappelle qu'en 98, on a envoyé Ronaldo à Rio et on se demandait où étaient les Brésiliens au match.
Mais, bien sûr.
C'était plus aussi par rapport à ce qu'avait dit Mbappé dans les médias, par rapport.
Exactement.
Oui, mais c'est un truc qui est ressorti
niveau,
du mois de mai.
Au niveau des équipes sud-américaines, etc. Ouais, donc c'est plus par rapport à ça.
Non, non, mais les journalistes l'ont caché pendant quelques mois, ils l'ont ressorti au bon moment. Évidemment, ça fait partie du métier social.
Je pense qu'on m'a dit, il faut prendre les choses avec des pincettes. Ouais. Il faut prendre quand même ces petits chambrages avec des pincettes.
Bien sûr,
on ne va pas faire des polémiques pour dire. Ouais.
Non.
C'est comme ça, ça fait partie du foot. On aurait peut-être fait, nous aussi, l'équipe de France, on aurait fait une petite chambrage comme ça sur quelque chose. Tant que
on
ne
va pas avoir le
seum
quand même. On n'est pas du genre à avoir le seum quand même. C'est, pas
c'est comme quand il y a Paris-Marseille, ça s'envoie des petits pics. Mais c'est bon enfant.
Exactement.
Bon, en tous les cas, on attend le retour des héros argentins. Ça va être. Est-ce qu'on a décrété un jour de. Fête nationale, Georges, ou quand même pas?
On attend une décision du président. Il prend un jour férié, oui, demain. Donc, je vous le dis, 2h30 du. Donc, ils vont se reposer un petit peu. Et demain, ce sera à midi, en plein cœur de Buenos Aires, sur cette avenue du 9 avec l'obélisque, grand soleil, avec bus à impérial. Messi soulevant la coupe devant le peuple argentin qui attend ça depuis 36 ans et qui attend ce Messi depuis des années. Je pense qu'on va avoir des images qui vont rester dans l'histoire du sport. Au-delà de l'histoire de l'Argentine. Donc, ça va être assez incroyable à vivre, je pense, demain. Et on vous fera vivre tout ça à l'antenne sur RMC.
Évidemment. Georges Quirino, qui, depuis qu'il est en Argentine, a vécu deux moments hallucinants. La mort de Dieu, la mort de Diego Maradona, il y a de cela quelques temps. Et donc, la victoire de l'Argentine. Troisième étoile pour l'Albi Céleste. Ouais, Georges?
Ouais. C'est d'ailleurs assez fou, Christophe, de se dire que les deux titres de Messi avec la sélection, la Copa América et la Coupe du Monde, sont arrivés après la mort de Diego Maradona, comme s'il avait finalement comblé un vide laissé dans le cœur des Argentins et pour lui aussi, d'une certaine façon, qui s'est libéré un petit peu.
Il y avait le complexe, peut-être le complexe de Maradona. Une fois le grand héros de l'Argentine disparu, eh bien, il a pu enfin réaliser son rêve et également faire rêver toute l'Argentine. Merci Georges, on va te laisser te reposer parce qu'il n'a pas beaucoup dormi quand même depuis quelques jours, notre Georges Quirino, et d'autant qu'il n'est pas prêt de dormir non plus dans les jours qui viennent, parce que ça va être la fête en Argentine. On l'a bien compris avec le retour de l'Albiceleste, donc dans la nuit argentine, ce sera demain heure de Paris, 19h24. On attend toujours l'arrivée de l'avion de l'équipe de France. On va accueillir Mickaël au 32-16, supporter de l'équipe de France. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir messieurs.
Bon, est-ce que toi tu te consoles en te disant que le dieu du football a enfin obtenu une Coupe du Monde, ou alors tu restes ancré sur ton soutien à l'équipe de France et tu es triste plus que de chose?
Alors malheureusement, je pense que vous avez un problème de fiche, puisque je suis supporter de l'équipe d'Argentine.
Ah, d'accord, excuse-moi. Ah oui, oui, oui.
Non, pas de problème.
Un vrai de vrai, donc. Alors, tu es d'origine argentine, ou alors c'est parce que t'es juste un passionné de Messi?
Non, moi c'est encore très très particulier, c'est très différent. J'ai la particularité d'être supporter de l'Argentine, d'apprécier Messi, mais pas être un grand fan de Messi en fait. Mm-hmm. Donc c'est encore très particulier, c'est juste que je suis, quand j'ai commencé à regarder le foot à 6 ans, c'était lors de la Coupe du Monde 90, et les premiers matchs que j'ai vus, c'était les matchs de l'Argentine. Donc je suis tombé amoureux de Diego Maradona, ça a été mes premiers matchs de foot, et en fait depuis, bah, c'est resté. Donc voilà pour la petite histoire.
Donc c'est une passion d'enfance qui t'est restée en quelque sorte.
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Je me souviens pleurer lors de la finale de 90, lors de la défaite de Maradona, puisqu'à l'époque c'était même pas la défaite de l'Argentine, pour moi c'était la défaite de Maradona face à l'Allemagne. Et encore plus pour continuer dans la petite histoire, c'est ce qui a fait que je suis ensuite devenu un supporter de l'Olympique de Marseille, puisque les couleurs bleu et blanc, bah, c'est quelque chose que j'ai cherché aussi après en France, et Marseille qui commençait à dominer un petit peu l'Europe sur le début des années 90, bah, je suis devenu ensuite supporter de l'Olympique de Marseille, après avoir été supporter de l'Argentine.
Alors ça va satisfaire Mathieu, un peu moins Jérémy, j'imagine.
Exactement. Et j'en profite pour passer le bonjour à Mathieu qui a fait des choses exceptionnelles aussi avec le maillot de l'ONU.
Merci, c'est gentil, je te passe le bonjour moi aussi.
Jérémy, est-ce que tu comprends qu'un Français né en France qui n'a aucune racine argentine puisse soutenir comme ça une équipe opposée à son pays, à sa nationalité.
On peut comprendre comprendre. Après, comme il a dit, c'est souvenir de gamin, donc quand on est insouciant, c'est nos premiers souvenirs, et voilà, c'est resté en lui, et voilà, c'est bien. Félicitations, hier il a pris la Coupe du Monde, donc bravo à lui.
Ouais, mais je pense que c'est important aussi, c'est premiers matchs, les émotions que ça lui a procuré. C'est ça le football.
C'est
L'Argentine, ça lui a procuré ces émotions-là. Et il est toujours resté fidèle sur cette équipe-là.
Et le blanc et bleu aussi, il aime bien.
Et puis voilà, et puis quelque part.
Le bleu ciel.
Et moi, j'ai juste une question pour lui. Est-ce que, par là, comme il n'est pas un très grand fan de Messi, mais je pense qu'il peut être, quand il va répondre à ma question, il va peut-être être honnête et juste. Qu'est-ce qu'il en pense du débat Maradona maintenant Messi, aujourd'hui Messi a gagné la Coupe du Monde. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense aujourd'hui?
Est-ce qu'il a dépassé Maradona? Est-ce qu'il va le dépasser dans le cœur des Argentins, Michael?
Ouais, j'ai eu le débat beaucoup depuis hier avec beaucoup de potes qui sont aussi dans cette réflexion-là. Moi, ce que je dis, c'est que en essayant d'être le plus objectif possible, moi, je suis pro Maradona, mais sincèrement, en étant objectif et lucide, même avant la Coupe du Monde, ce qu'avait réalisé Lionel Messi dans sa carrière au niveau sportif, c'est déjà pour moi au-dessus de ce qu'a fait Maradona. Maintenant, la différence, c'est que Maradona, il a toute cette aura qu'il entraîne avec lui, qui fait que je pense dans le cœur des Argentins, personne n'arrivera à le dépasser. Et Georges l'a bien expliqué aussi, notamment sur hier. En fait, la différence, c'est que maintenant, avec cette victoire en Coupe du Monde, les deux sont avec une finale gagnée, une finale perdue. Et si vous avez remarqué, il y a un tout petit peu de différence dans l'évocation de Messi avec l'Argentine. Maintenant, on le met à côté de Maradona. On arrête un petit peu les comparaisons de l'un et de l'autre. Et je pense que c'est justement par la peur de faire passer Messi au-dessus de Maradona. Et maintenant, on le met à côté.
On touche pas à Dieu quand même. On touche pas à Dieu en Argentine.
C'est difficile. Donc maintenant, on dit que c'est légal et on le met à côté. Mais moi, sincèrement, Maradona restera toujours au-dessus pour moi, encore une fois par rapport à mes souvenirs d'enfant, mais en étant lucide et objectif, ce qu'a réalisé Lionel Messi, autant en club qu'en sélection, il est passé devant Maradona.
Très bien, merci Mickaël. Eh ben, on te souhaite d'aller à Buenos Aires, non? Tu aurais pu y aller quand même pour fêter ça.
Alors hein là, non, mais j'espère pouvoir y aller dans le futur, parce qu'encore une fois, voilà, c'est comme le disait Mathieu et aussi Jérémy tout à l'heure, le foot pour moi c'est des émotions. J'ai même pour rien vous cacher, hein, dans mon entourage proche, il y a des gens qui comprennent pas que je sois pas supporter de l'équipe de France. Et comme je leur explique, pour moi être supporter, c'est avoir des convictions et être convaincu par ce qu'on supporte. C'est que ça représente quelque chose, il y a une histoire derrière. J'aime beaucoup l'équipe de France, j'étais très content de la première victoire en Coupe du Monde en 98 pour les Bleus. Maintenant, mon cœur, mon émotion, les sentiments, c'est l'Argentine. Donc, c'est ce qui fait que je me retrouve dans ces valeurs-là.
Chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Exactement. Ouais, c'est pas par snobisme et par volonté de supporter le grand footballeur. C'est une vraie passion d'enfance et on te comprend. Merci, Mickaël. Et bravo donc pour cette troisième étoile. Mais bon, vous n'allez pas non plus en accumuler comme ça tous les quatre ans. Hein. Des étoiles, on en veut nous aussi une troisième rapidement. Merci, Mickaël. 19h29, toujours plus de monde sur la place de la Concorde. Attendre l'arrivée de l'équipe de France. On va retrouver nos envies spéciaux dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h avec Jérémy Ménez, Mathieu Balbuena qui sont là pour célébrer donc la victoire de l'Argentine, la défaite de l'équipe de France, mais défaite avec tellement de panache, avec tellement de fierté. On va s'intéresser donc dans un instant aussi à notre héros français, Kylian Mbappé, qui a inscrit 3 buts en finale de Coupe du Monde. C'est quand même un exploit unique pour Mbappé. Alors Mbappé plus grand que Messi sur cette finale? A priori non, puisque c'est Léo Messi qui a été désigné meilleur joueur, mais on va faire le débat dans un instant et on va accueillir notre équipe de France qui est en approche de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy. À tout de suite.
RMC intégrale Coupe du Monde.
Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 20h dans l'intégrale Coupe du Monde, nous attendons l'arrivée de l'équipe de France. L'avion qui a de plus en plus de retard, il est programmé pour une arrivée dans 26 minutes. Maintenant, il est au-dessus de 3, pas très loin de la tête de Giroud à Auxerre. Là, il est à 3 et il va s'approcher de Paris. On va retrouver tous nos envoyés spéciaux qui trépignent d'impatience. Il y en a un qui est là sur le tarmac de l'aéroport, qui regarde les avions qui se posent les uns après les autres, d'autres qui décollent. Toujours pas l'avion de l'équipe de France. Non, il va falloir encore attendre 25 petites minutes, Anthony, hein.
Oui, exactement, Christophe. Faut attendre encore 25 petites minutes. A priori, on devrait pouvoir voir les joueurs de l'équipe de France sortir de cet avion aux alentours de 20h, 20h15. Le temps qu'évidemment, l'avion traverse le tarmac en bout de ligne et vienne se garer à 200 mètres en face de nous. Et pour les accueillir, eh bien, le terminal qui est attenant à ce tarmac-là a revêtu ses habits de lumière tricolores aux couleurs du drapeau français, évidemment, bleu, blanc, rouge. énorme dispositif de sécurité, Christophe, puisque évidemment, hein, les vice-champions du monde, c'est un dispositif exceptionnel. Pas moins de 70 motards des forces de l'ordre vont les escorter jusqu'à la place de la Concorde. Si on a de la chance, ils devraient passer pas trop loin des micros, si l'humeur est bonne du côté des joueurs de Didier Deschamps. Donc on aura peut-être la chance d'avoir une réaction d'un des joueurs de cette finale légendaire d'hier soir à notre micro.
Merci Anthony. Jérémy, Mathieu, si vous voyez, si vous étiez dans la peau des joueurs qui vont rentrer là, vous voyez comme ça une forêt de micros se tendre vers vous. Est-ce que vous parleriez ou est-ce que vous laisseriez les journalistes tranquilles tout seuls se débrouiller avec leur micro? Jérémy, on va commencer avec toi.
Bah, pour être franc, je pense que je pense que j'aurais pas trop parlé.
Je connais sa réponse.
Je vais être honnête, je pense que j'aurais pas trop parlé. J'aurais fui très très vite. Donc après, c'est vrai que quand on sort d'un long voyage, d'une telle défaite. Et puis moi avec les journalistes, la presse, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été
pas toujours très sympa. Merci les gars, ouais. Voilà. Je m'en souviens moi. Mathieu, ton avis à toi.
Mais bon, ah, mais ça c'était avant ça.
Maintenant on est copains maintenant.
Je disais ça avec Jérém parce qu'on a partagé l'Euro 2012 ensemble.
Et ouais.
Et c'est vrai quand il y a des déceptions comme celle-là, on avait été éliminé en quart contre l'Espagne. Et c'est vrai que. C'est compliqué parce que là c'est pas le moment en plus de pouvoir parler, c'est à chaud, je pense que tu es fatigué, tu n'as pas dormi une minute je pense et quelque part tu as envie juste vraiment de tout simplement aller saluer les supporters et puis rentrer chez soi quoi. Mais c'est vrai que faire des discours c'est pas le moment.
Ouais, c'est pas le moment. Donc on a bien compris, Anthony, tu as compris ce qui t'attend. Tu n'auras pas beaucoup de réponses à tes questions tout à l'heure, si on en croit Mathieu Valbuena et Jérémy Ménez. Alors il y en a un qui va essayer de se faufiler, de se rapprocher du bus. Ça va pas être facile parce qu'on a entendu, il y aura beaucoup de motards de la garde républicaine et de la gendarmerie qui vont entourer le quart de l'équipe de France. Mais avec Morgan, moi je lui fais confiance. Il sera sur la moto RMC. Salut Morgan.
Bonsoir l'équipe, bonsoir à tous.
Bon, est-ce que ça va être plus compliqué que pour interviewer le président de la République sur le Tour de France, hein, Morgan, cette histoire-là hein.
C'est possible. pas bon. Sûr qu'on baisse la vitre de l'autocar.
Oui, en plus. Il y a une forêt, il y a une horde de motards déchaînés prêts à suivre le quart des Bleus.
Oui, c'est peut-être pas une grille de départ de MotoGP, Christophe. J'ai compté jusqu'à 17 motos de presse, donc pour les chaînes de télé, chaînes de radio, qui sont prêtes à suivre le départ du quart des Bleus lorsqu'il quittera le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, il y a plusieurs sorties. C'est là le jeu. Il y a plusieurs sorties au niveau du tarmac. Il s'agit de trouver la bonne pour les journalistes. À côté de moi, à 50 mètres, vous avez une des sorties. Il y a déjà 16 motards qui sont positionnés, 16 motards de la police, de la gendarmerie. Et juste derrière eux, dans les bâtiments, des hommes en armes, cagoulés, les forces spéciales françaises qui sont également là pour parer tout problème grave. Et ensuite, pour la sortie de Roissy, là, direction Paris et la Porte Maillot, ensuite, pour rejoindre les Champs-Élysées et la Concorde.
Ouais, t'as le parcours déjà, on t'a donné le parcours ou tu vas te débrouiller?
On va se débrouiller, c'est le jeu, Christophe. On va se débrouiller et puis peut-être qu'il y aura des supporters qui auront pris leur voiture, leur scooter pour essayer d'escorter les Bleus dans ce petit périple qui les ramène à la capitale.
Merci Morgan, on te fait confiance, à tout à l'heure. Tu seras pas tout seul. Comment s'appelle ton motard?
Avec José, avec la BMW 1200 cm3.
Oh là là, ça va dépoter là. Ça va envoyer du bois, ça. Ça va accélérer.
Attention au flash quand même.
oui. Ouais, avec tous les policiers qu'il y a, tu pourrais essayer de les faire sauter, mais c'est pas gagné. Merci Morgan, à tout à l'heure. Jérémy, Mathieu, en 2012, vous en parliez, il n'y avait pas de forêt de moto comme ça à suivre le bus de l'équipe de France, hein. Mathieu.
Oh ben bon, le retour, c'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs, donc je pense pas qu'on puisse. On n'était pas dans la plus belle époque de l'équipe de France, et c'est vrai que non, on avait fait notre retour d'Ukraine, et c'est vrai que ça avait été
plus dans l'anonymat.
C'était au Bourget,
C'était
au Bourget, c'était vraiment dans l'anonymat.
Non, c'était calme.
C'était calme.
Et puis voilà. Bon. Tout simplement.
Les journalistes ne voulaient pas nous voir à cette époque-là.
Ah bah oui.
Jérémy, est-ce que tu aurais aimé avoir, même après une défaite, est-ce que tu aurais aimé avoir l'engouement autour des Bleus comme ça, autour de votre retour? C'est quelque chose qui...
Non, bah oui, c'est sûr. Ouais, non, ça fait plaisir. Mais comme quoi, on voit que l'image de l'équipe de France, et c'est bien, et faut en être fier, que malgré la défaite, et ben on voit quand même un pays, des supporters et des personnes fières de leur équipe. Et ça, c'est bien et c'est beau à voir. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, notamment quand nous, on y était, bah, l'image de l'équipe de France avec les supporters et tout, c'était un peu mitigé. Ils ont réussi à redorer un peu cette image-là. Et puis, c'est beau. C'est toujours mieux de voir des images comme ça que des autres images. Donc, non, c'est bien, c'est beau. Félicitations à eux.
C'est vrai que l'époque 2010-2012, quand tu fais un championnat d'Europe 2012, ça vient deux ans avant l'histoire du bus en 2010 en Afrique du Sud. Bon, malheureusement, ouais, j'y étais. Et c'est vrai que. Et tu le vois parce qu'après, en 2012, tu te fais éliminer en quart. Et en 2014, où j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire cette compétition-là, on a eu une marée de gens qui nous ont attendus à l'aéroport pour ce quart de finale qu'on a perdu contre l'Allemagne. Donc voilà, on avait de tout à rien et quelque part, moi, ça m'avait mis énormément d'émotion quand j'ai vu ce nombre incalculable de supporters venir nous attendre au Bourget.
Le public change vite son fusil d'épaule. Tu peux passer de paria à héros et de héros à paria rapidement selon les compétitions que tu disputes. On continue d'en parler avec vous dans un instant. On va retrouver Mao Becker-Granier qui est toujours à courir après les sorties éventuelles de l'équipe de France. Mao, est-ce que tu as trouvé la bonne sortie ?
Et ben justement, ça commence à se dessiner là. On commence à sentir le parfum des bleus au baume. Mais l'aéroport, je suis avec le petit Kenji, il a 9 ans, il est Montpellier. Kenji, toi, tu rêves de les voir bientôt là ?
Ouais.
T'es venu vraiment pour ça, t'es chaud ?
Ouais.
Et avec Jacques, qui est plus grand, on mène l'enquête. Alors, Jacques, on vient d'apprendre que le terminal 1 était aux couleurs bleu, blanc, rouge. C'est un petit indice, qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant ?
On va se dépêcher pour le terminal 1 pour voir les bleus là. Donc là, c'est course contre la montre.
Voilà, là, ça y est, on a vu tous les supporters d'un coup se mettre à courir. Et exactement, c'est peut-être une feinte. Bah, c'est la théorie de Kenji. Ouais. Lui, il pense que c'est une feinte. Donc en fait, on hésite à. Voilà, il faut rester d'un côté de l'autre. En tout cas, avec Jacques, on va y aller. On a plus d'espoir peut-être là-bas.
Oui, on a plus peur de les voir là-bas parce qu'apparemment ils sont là-bas, donc on va aller à 1. Dès son terminal 1 là, donc on se dépêche.
Voilà, c'est la course, mais là c'est la vraie course maintenant.
Très bien, on te laisse courir rapidement vers le terminal 1, c'est pas tout à côté. Hein. Donc peut-être tu peux demander à Morgane et sa moto de t'amener jusque là-bas. En tous les cas, bonne chasse à l'équipe de France. 19h40, on revient dans un instant, toujours avec Mathieu, avec Jérémy, pour évoquer cette équipe de France qui ne va pas tarder à se poser. Ça s'approche pour les Bleus qui vont atterrir. La place de la Concorde est noire de monde, l'hôtel Crillon brille de mille feux et on va y aller dans un instant devant cet hôtel Crillon sur la place de la Concorde. À tout de suite, l'intégrale Coupe du Monde, c'est jusqu'à 20h.
RMC intégrale Coupe du Monde.
Christophe Cessieux.
19h45 sur RMC, l'intégrale Coupe du Monde jusqu'à 20h. À partir de 20h, vous retrouverez l'after. On va même leur rendre l'antenne un peu plus tôt pour ne pas rater l'atterrissage, parce que Anthony Reich va nous commenter l'atterrissage du Boeing d'Air France dans lequel ont pris place les joueurs de l'équipe de France. Donc c'est la première fois qu'il va nous commenter un atterrissage en direct. On va voir s'il est bon dans cet exercice. Kevin Morand, lui, se trouve sur la place de la Concorde. Voilà, il y a du monde. Il y a un magnifique spectacle avec cet hôtel Crillon qui est l'un des plus beaux de France, hein, Kevin, qui brille de mille feux, et devant des milliers de supporters. Hein, tout le monde est là avec des drapeaux français, avec des maillots. Il y a plein de gamins qui sont au premier rang, qui chantent, qui fêtent. Voilà, c'est la fiesta ce soir sur la place de la Concorde.
Ouais, rebonsoir Christophe. En effet, ils sont maintenant plusieurs milliers de supporters massés le long de ces barrières autour du périmètre de sécurité mis en place devant cet hôtel Crillon, une trentaine de mètres pour assurer la sécurité du quart de l'équipe de France, notamment quand il va arriver. Les chants qui résonnent déjà depuis une bonne heure maintenant. Il y a eu le premier Freed from Desire, évidemment. Il y a également eu quelques Marseillaises et puis ramenés à la coupe à la maison, même si ce sera maintenant pour dans 4 ans. 2000 policiers et gendarmes sécurisent ce rassemblement sur la place de la Concorde. Et la foule, elle se réchauffe petit à petit. Je suis avec
Lucie, la Marseillaise maintenant.
Lise et Louis qui viennent des Ardennes, en effet. La Marseillaise qui retentit autour de nous. Lucie, pourquoi vous êtes venue là ce soir ?
Ben, on a envie de soutenir encore nos Bleus qui ont fait une très belle compétition et que pour nous, ils ont gagné hier soir. C'est pas possible autrement.
Et donc, vous êtes venu exprès des Ardennes pour la finale en espérant pouvoir être sur les Champs-Élysées aujourd'hui.
Pour être sur les Champs hier soir, pour être sur les Champs-Élysées aujourd'hui, pour les attendre. Mais on les place de la Concorde, on est fiers d'eux et on les attend avec impatience.
Bon, vous espérez voir qui privilégié en premier.
Franchement, pour moi, c'est toute une équipe formidable. Ils nous ont fait rêver sur toutes les vidéos. Mais c'est vrai qu'on a nos chouchous, le Grisou, comme on dit, Mbappé, Giroud, Hugo Lloris, le capitaine. C'est vraiment mon chouchou, je pense.
Merci. Et donc l'attente va être encore un peu longue, une bonne heure, mais ça va, il ne fait pas trop froid ce soir pour ce retour qui ressemble à celui des finalistes 2006. La différence, c'est qu'il y a des sapins de Noël devant le tribunal. Ça va donner une ambiance un peu spéciale à ce retour, unique en tout cas.
Ah, il fait un petit peu moins chaud qu'en 2006 au retour de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde, mais il y a une belle ambiance et on a compris que tout le monde se réchauffait en chantant, en criant et en encourageant l'équipe de France. Anthony Reich, donc, qui s'apprête à nous commenter l'atterrissage du Boeing. Est-ce que tu as révisé tes classiques, Anthony?
Tu t'essayes de me mettre la pression, Christophe. Je l'ai entendu. Oui, mais écoute, on va essayer d'être opérationnel pour cet atterrissage. Là, on décompte les minutes, évidemment. D'ici, allez, peut-être une dizaine, voire une quinzaine de minutes, on verra l'avion. Les joueurs de l'équipe de France se posaient sur ce terminal.
Alors, prévu dans 11 minutes l'atterrissage, a priori, hein, aux dernières nouvelles.
Voilà, donc on est sur un terminal un peu particulier ici. On est au pavillon de réception. C'est un peu le terminal des VIP.
Pour aider Mao qui cherche le terminal où vont s'arrêter les Bleus, tu as quel terminal? C'est terminal 1, comme c'était annoncé il y a quelques minutes, ou un autre terminal?
Non, c'est encore un autre terminal. C'est encore un autre terminal. On n'est pas dans les terminales, on va dire, classiques des vols commerciaux type F, de E que vous avez l'habitude de prendre quand vous partez en vacances ou en week-end.
Donc ils vont pas du tout passer.
C'est un peu à une extrémité de Roissy. On est passé dans les zones techniques notamment, et donc il y a un accès dédié avec un tapis rouge à une centaine de mètres du bout de ce tarmac pour les invités qui arrivent par ce terminal lorsque les besoins sont nécessaires.
Ouais, et on vous a mis un masque sur les yeux pour brouiller les pistes. Pour vous empêcher de communiquer les informations à vos collègues journalistes. Voilà, c'est incroyable, c'est arrivé. Merci Anthony, on va te retrouver dans quelques instants, hein, puisque l'avion est vraiment en phase d'approche des pistes de Roissy, donc arrivé dans quelques instants, et on va vous faire vivre avec Benoît Boutron dans quelques minutes, donc l'arrivée et surtout le départ du car vers Paris, vers la place de la Concorde. On est toujours avec Mathieu Valbuena et Jérémy Ménez qui sont avec nous et qui regarde et écoute ça avec beaucoup d'intérêt. C'est toujours sympa de voir la ferveur qu'a suscité cette équipe de France. Désormais, les Bleus sont vraiment dans le cœur des Français. Et on se dit, Jérémy, on se dit que l'avenir peut être doré pour cette équipe de France. On l'a à peine évoqué tout à l'heure. Mais cette jeune génération, des gamins qui ont entre 22 et 24 ans, qui ont découvert la Coupe du Monde, comme Kolo Muani, par exemple, qui aurait pu changer le cours de sa carrière hier s'il avait mis ce but. Mais on sent qu'il a quand même une belle carrière à vivre et voilà, il y a vraiment une nouvelle génération dorée qui arrive chez les Bleus.
Ouais, bien sûr, que ça soit lui ou plein d'autres, et c'est ce que je disais. Sûr, malgré la défaite, il y a quand même beaucoup d'espoir pour le futur, parce que c'est une équipe très très jeune. On voit beaucoup de joueurs être très performants dans les grands clubs européens, faire des grandes compétitions et même au niveau du monde du football, tout le monde est unanime sur la qualité des Français, sur la qualité des jeunes. Donc ça prévoit vraiment un bel avenir. Et maintenant tout est dans leurs pieds, dans leur tête. Donc c'est à eux de jouer. Mais en tout cas, ils ont tout pour marquer l'équipe de France et pour faire de tous de très belles carrières.
Mathieu, toi aussi, tu y crois? La troisième étoile, ce sera pendant 4 ans?
Oui, non, mais on l'espère tous. Moi, j'ai vu, on sait très bien qu'il y a énormément de qualité dans cet effectif, des jeunes joueurs qui ont déjà de l'expérience, déjà dans leur club. Et moi, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, c'est que beaucoup d'insouciance. Parce qu'on a vu quand même les rentrées de Kolo Muani, de Thuram, ou voire même de Kamavinga. Alors, j'ai beaucoup d'insouciance. Et, forcément, ils ont beaucoup de talent et c'est vrai que il y a une défaite. C'est vrai, elle fait mal, et surtout pour les jeunes, parce qu'il y en a, ils venaient juste de découvrir leur première Coupe du Monde, mais ils vont emmagasiner beaucoup d'expérience, ils vont continuer à progresser et j'espère que cette équipe de France, parce que pour moi c'était un petit peu la chose qui m'a un petit peu manqué dans ce mondial, que on n'a pas toujours maîtrisé nos sujets. On a eu des fois beaucoup de chance, notamment contre l'Angleterre. Et c'est vrai que je trouve qu'avec un effectif comme le nôtre, qui est peut-être la meilleure nation au monde, avec peut-être aussi le Brésil. Je pense qu'on avait d'autres moyens aussi de pouvoir faire autre chose, on va dire, dans le jeu, je parle, parce que voilà, on a un effectif de qualité et c'est dommage qu'on n'a pas pu le montrer dans cette finale et qu'on a dû attendre beaucoup trop de temps pour réagir, tout simplement. Mais en tout cas, on a un bel avenir et j'espère qu'on va continuer à progresser. Et puis je me fais pas de soucis pour cette troisième étoile qui arrivera bientôt.
Merci Mathieu Valbuena, merci Jérémy Ménez de nous avoir accompagnés durant ces deux heures, donc pour fêter les Bleus.
Avec grand plaisir.
Héros malheureux de cette finale, mais
c'était. Et bonne fête à vous.
Et ben merci à vous aussi les garçons.
Et pas trop de bêtises.
Ah,
ouais. Hein.
Ah non surtout pas, c'est pas notre genre. Hein.
C'est important.
Jérémy, bonne fête à vous aussi. Hein. Et remettez-vous parce que vous êtes un peu pas au top tous les deux. Hein. Entre Jérémy qui nous fait des malaises et Mathieu qui vient de se faire opérer. J'espère que vous allez bien vous remettre et que 2023. Oui, ben vous aussi. Merci les garçons.
Bonne à bientôt. À ciao, ciao.
À très bientôt. 19h53. Lui, il se fait pas vieux, il est tout jeune encore. Et il en a vécu déjà quelques Coupes du Monde quand même.
Ah oui, tout de même.
Hein, quand même. Hein, ouais. Ça va, Benoît?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça va. Donc je devais faire l'arrivée de l'avion, mais en fait c'est pour toi l'arrivée.
Exactement.
De l'avion.
Exactement.
Merci Air France, 2 heures de retard. Hein. Bravo.
Tout à fait. Bah, on est habitué. Air France. Voilà le retard pour les Bleus dans cet avion qui va atterrir d'ici quelques minutes. Vous n'allez rien rater.
Ah ouais. Anthony Rage commente l'atterrissage.
Anthony Rage qui va commenter l'atterrissage sur le tarmac. Pierre Thévenet qui est dans le salon d'honneur. On espère avoir des réactions des joueurs de l'équipe de France. Mao Bécard-Granier, elle aussi à l'aéroport pour l'ambiance. Et puis les autres équipes d'RMC Sport, Morgan Mori qui sera sur la moto. Et puis on est également sur la place de la Concorde, là où tout va se passer. Clément Brossard, Kevin Morand. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de réactions. On va célébrer, communier avec cette équipe de France qui a été battue en finale hier par l'Argentine. Tout de suite sur RMC.
RMC, After Foot.
Intégrale Coupe du Monde.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.